Pierre est là tous les jours pour vous aider à vous enrichir. Et encore ce matin, trois options, trois stratégies, des décisions qui vont optimiser vos finances à long terme.
Oui, depuis quelques semaines, je parle avec des comptables, Paul, puis on cherche la façon. La façon de changer notre vie. C'est-à-dire ne plus être esclave du système et de ne plus nous faire avoir par le système tout en étant dans les règles du système. Alors, il y a un constat qui est toujours fait, puis que je le répète souvent, mais je vais te le faire encore, c'est que le gouvernement veut que tu économises pendant que tu es jeune. Et comme personne ne le fait, le gouvernement gagne. Alors, le gouvernement dit, je vais te taxer sur tes revenus. Comme tout le monde compte sur une augmentation de revenus pour payer leur vie, pour payer leur augmentation de train de vie, on se retrouve à payer beaucoup d'impôts. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'être riche en actifs. Donc, la seule façon d'être riche en actifs, c'est de réussir à remplir son CELI, son REER ou autre placement pendant sa jeunesse et de ralentir la cadence à 45 ans, évidemment, au moment où tu vas pouvoir moduler tes revenus. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir prendre des décisions. D'ailleurs, tous ceux qui sont incorporés, là, je parle pas juste aux médecins. Là. Évidemment, les médecins, si vous n'êtes pas encore incorporés, allez voir un comptable au plus vite parce que vous avez peut-être pas compris la logique financière. Ben, si le gouvernement canadien te permet de laisser des placements dans ta société incorporée et de décaler ça dans le temps, profites-en. Si tu vis un trop gros rythme de vie, tu ne profites pas de l'avantage et tu fais juste payer des comptables pour rien.
Bon, ça veut dire épargne.
Épargne. Deuxième point, faut que tu aies un plan d'arbitrage géographique.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que, mettons que tu vis à Québec ou à Montréal ou dans une grande ville, Longueuil, Laval, peu importe, où les immobilisations coûtent cher. Faut que dans ton plan de retraite, si tu te déplaces de maison, ça soit pour une place, ta maison coûte 200-300 000 moins cher. Du jour au lendemain, tu vas garder la même qualité de vie. Et en plus, tu vas avoir une couple de 100 000 dans tes poches. Je te donne un exemple. T'as un duplex à Montréal, là, t'es comme vu comme quelqu'un de la classe moyenne, mais veux pas, une fois qu'il est payé, une fois qu'il est propre, il vaut 800 000 dans des beaux quartiers. Et tu t'en vas à 60 ans dans un chalet à Lanaudière qui coûte 300 000, tu viens de faire 500 000 de cash flow moins l'impôt. Tu comprends? Et ça, ça te permet de gagner, d'améliorer ta vie d'un coup. D'ailleurs, l'autre conseil, changer de maison ça, l'arbitrage géographique, là, à faire le moins souvent possible. Parce que toute ta vie, tu mets de l'énergie puis de l'argent à entretenir ta maison, à la rénover, tout ça. Et tu mets surtout d'énergie à l'avoir payé pas cher et à l'avoir gagné en valeur. Les gens qui changent de maison paient des coûts de transaction chaque fois. Que ce soit au niveau de l'entretien, de la peinture, des rideaux, peu importe.
La taxe de bienvenue.
La taxe de bienvenue. Il n'y a pas juste ça, Paul. Souvent, on agrandit une maison. Alors, il faut qu'on ait une maison que lorsqu'on est tout seul, plus d'enfants, on la trouve encore petite. Donc, vaut mieux serrer les coudes quand on est plus jeune et avoir une maison avec des enfants, puis se dire, je vais la garder longtemps, mais je ne vais pas en prendre une trop grosse. Et la troisième stratégie, c'est d'avoir une stratégie d'investissement te permettant de moduler tes revenus de retraite. Si tu as un régime de retraite à prestations déterminées, le gouvernement va venir te chercher tout ton argent, excuse-moi, ton argent parce que, dans le fond, tu vas être imposé selon ton salaire. Tandis que si tu as des placements d'assurance-vie pour léguer ça à tes enfants net d'impôts, si tu as un immeuble à revenu qui a des dépenses qui va te permettre d'avoir du revenu plus ou moins imposé, si tu as de l'argent à ton CELI, de l'argent à ton REER, tu vas pouvoir moduler tes revenus de retraite et donc payer le moins d'impôts possible et surtout vivre un train de vie tellement raisonnable que ça va te permettre de payer moins d'impôts. Alors c'est ça la stratégie. Elle est facile, elle est compréhensible et ça va diminuer la facture fiscale, ce qui va te faire travailler moins longtemps. Et ça, j'aime ça.
Oui. Non, mais c'est intéressant. Surtout quand tu dis, c'est vrai pour la maison, là, tu peux choisir de déménager dans un secteur où le prix de l'immobilier est inférieur, puis là, c'est vrai que ça te donne un capital intéressant.
Combien de personnes ont changé de ville et sont devenues millionnaires à cause de ça, Paul?
Ben, peut-être pas millionnaire.
Non, mais oui, Paul, oui. Mais mets 300 000 dans un compte pendant 20 ans. Tu vas être millionnaire avec ton chalet.
Trois défis pour l'entrepreneur qui prépare sa retraite.
Ouais, le premier, tout entrepreneur qui a une business là, a un gros problème. C'est que sa business vaut quelque chose s'il est capable de la vendre et qu'il est capable de céder à quelqu'un. Donc, trouver de la relève, c'est le premier défi. Donc, préparer de la relève, c'est pas juste aider un kid, c'est de vous assurer d'avoir quelqu'un pour payer votre business. Parce que ça te prend un plan de sortie. Hein? Mais c'est dur de convaincre un jeune aujourd'hui. Tu vas lui dire « Hey, tu n'auras pas de fin de semaine, tu vas stresser pour ton entreprise, ta rémunération va être variable, tu vas prendre du risque. » Puis contrairement à tous les emplois que tu as eu dans ta vie, tu n'auras pas juste à démissionner, va falloir que tu fermes l'entreprise ou que tu la vendes pour pouvoir changer d'emploi. Deuxième point, obtenez le juste prix. Les gens qui vendent leur entreprise pensent toujours que ça vaut plus cher que la valeur réelle. Faut faire affaire avec un expert en évaluation d'entreprise et tu auras 2-3 évaluations différentes parce que la clientèle doit rester. C'est une clientèle de service, Paul. Souvent, c'est lié avec l'entrepreneur qui est là. Si l'entrepreneur s'en va, faut que tu signes un contrat avec une clause que tu restes pendant 1 ou 2 ans pour faire la transition. Et des fois, ton acheteur va te dire, je vais avoir des clauses restrictives. C'est-à-dire que si un pourcentage de clients qui s'en vont, je te paye moins. Hein? Tu vas me financer, mais je vais te payer moins à la fin. Comme l'entreprise manufacturière. C'est pas parce que tu as fait fortune pendant 30 ans avec un produit que 10 ans plus tard, ça vaut le même prix. Ça se peut que ton successeur dise, écoute, moi, ta business est en phase-out, puis il y a moins de valeur dans la qualité de ton produit par rapport à avant, il y a plus de concurrence. Et finalement, là, je te parle de fiscalité, faut que tu convainques l'acquéreur d'acheter tes actions. Parce que quand tu as une PME, puis tu vends tes actions, tu es admissible à l'exonération pour gain en capital sur actions de petite entreprise souvent. Et ça te donne une exonération, tu sais, de beaucoup de milliers de dollars, 855 912, genre à peu près, là. Ça monte à chaque année, le plafond. Et si tu as mis en place une fiducie familiale, tu vas multiplier cette exonération-là par le nombre de bénéficiaires, Paul. Donc, il y a des gens présentement au Québec qui vendent des entreprises avec 4 millions de profits à la vente puis qui payent pas une scène d'impôts parce qu'ils ont mis en place une structure fiscale leur permettant de multiplier l'exonération par le nombre de bénéficiaires. Ben, fait qu'ils vont mettre leurs enfants, les coûts, tu sais, ils vont mettre d'autres mondes là-dedans, tu comprends?
Mm-hmm.
Alors, si tu vends les actifs, tu pourras pas faire ça.
Parfait.
Alors voilà, Paul.
Merci. Bonne fin de semaine.
Hey, oubliez pas vos descendants, hein. C'est important de leur donner de l'argent de suite.
Oui. Et même la deuxième génération après.
Oui, monsieur.
7h21.